Jack Radio, l'info en quelques mots.
Bonjour chers auditeurs, c'est Evan, Jules et Laureline. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur le bien-être adolescent. Aujourd'hui, suivez notre équipe entre micro-trottoir, interview et chronique pour une émission qui fait du bien.
Oui, dans le parcours scolaire d'un adolescent, les notes jouent un rôle central et peuvent être une véritable source de stress excessif, n'est-ce pas Isaac ?
Eh bien oui, l'école c'est bien plus qu'un simple lieu d'apprentissage. À travers les sorties, les projets, les rencontres ou encore les voyages, c'est aussi un terrain d'expérimentation, de découverte et d'épanouissement. Pourtant, à chaque fois qu'on parle de scolarité, la question des notes revient presque systématiquement. Ces deux éléments semblent indissociables. L'évaluation par la notation existe depuis des siècles, et si elle varie d'un pays à l'autre, les notes restent un outil universel, connu de tous ceux qui passent par l'école. Ce système fait partie intégrante de l'éducation, et l'on n'envisagerait pas un enseignement sans évaluation. Mais cette pratique présente des failles et peut avoir un réel impact, notamment sur les adolescents. Les travaux de docimologie, soit l'étude des méthodes d'évaluation, ont révélé plusieurs biais de notation. En effet, les notes peuvent varier selon des facteurs tels que l'âge, le genre, l'origine sociale ou encore le niveau scolaire de l'élève, s'il a redoublé ou sauté une classe par exemple. De plus, une même copie peut recevoir une note différente en fonction du correcteur et des copies déjà évaluées avant elle. L'évaluation par la notation est donc forcément un système subjectif, puisqu'elle est influencée par des stéréotypes ancrés dans notre société. Et ces biais, ces inégalités ont un impact direct sur les élèves, qui vivent souvent les notes comme un jugement ou une évaluation de leur valeur personnelle. Beaucoup d'élèves se définissent par leurs résultats, et cette pression peut devenir énorme, car les notes sont au centre de la scolarité de chacun. De nombreux adolescents disent les consulter au moins une fois par jour, et les angoisses liées au contrôle et aux notes sont plus que courantes. Selon une étude menée par Ipsos en mars 2025, près de 62% des adolescents avouent être stressés par les interrogations et les résultats de leurs devoirs. Les notes et les devoirs sont d'ailleurs les principaux facteurs perturbant la qualité du sommeil des jeunes, bien devant d'autres préoccupations comme les disputes avec les amis ou les relations amoureuses. Les notes deviennent aussi un terrain de discorde avec la famille.
Lisa, c'est quoi ces notes ? Qu'est-ce que c'est que ces notes ?
Elles impactent l'estime de soi et elles peuvent affecter la santé mentale des adolescents. Dans certains cas, elles sont même liées à des phobies scolaires ou à du décrochage. Mais il est très dur de s'en détacher, car les résultats ont une part gigantesque dans les possibilités d'orientation future. Et avec le contrôle continu, chaque note compte. Alors on peut le dire, les notes ne sont pas toujours très justes. Mais plusieurs alternatives sont quelquefois explorées par certains professeurs, comme l'auto-évaluation ou la correction entre pairs. Le plus important est de se remettre en mémoire que, à l'origine, les notes ont pour but de nous situer dans nos capacités et nous aider à progresser. Elles font partie du jeu, mais elles ne disent pas tout. Elles ne résument pas qui nous sommes, ni ce dont nous sommes capables. Ce ne sont que des indicateurs, pas des verdicts. Et même si on ne peut pas complètement les éviter, on peut apprendre à les regarder autrement, à les remettre à leur juste place.
On a tous déjà vu des lycéens, voire les collégiens, fumer un étrange objet lumineux qui est la puff. Mais quel est son impact sur les jeunes ?
Représente-toi cette scène, que tu as forcément déjà observée. En entrant ou en sortant du lycée, tu croises un groupe d'autres lycéens, dont plusieurs en train de fumer des cigarettes électroniques colorées et lumineuses. C'est ça, des puffs. Maintenant, représente-toi l'odeur du tabac qui va forcément avec. Car oui, des puffs, ça reste des cigarettes. Aujourd'hui, la puff et ses équivalents sont très répandus devant des collèges et lycées, et de nombreux ados, plus de la moitié, essaient cette cigarette électronique jetable aux couleurs attractives et au goût artificiel varié. Et un sur six en fume désormais régulièrement. Mais attention, car la puff, tout comme sa grande sœur la cigarette, est faite pour être addictive. Pour cela, il possède une forte concentration en nicotine visant à rendre accro ses consommateurs, mais également des couleurs vives et de nombreux goûts renouvelés régulièrement et du marketing parfois excessif.
De quelle forme ?
Les multinationales du tabac ne manquent pas d'inspiration pour attirer une clientèle jeune, beaucoup plus rémunératrice pour eux car plus facile à rendre accro et qui sera addict plus longtemps. Et ce, alors que la puff est, comme toutes les autres marchandises à base de tabac, interdite à la vente aux mineurs par la loi Evin. mineurs qui constituent donc la majorité des consommateurs de cette nouvelle cigarette électronique jetable, acclamée par des influenceurs rémunérés pour cela, tels que Sarah Frézou ou ses homologues masculins. Rappelons que la cigarette traditionnelle a perdu du terrain suite à la révélation des Tobacco Documents en 1998. Des documents que les 7 plus grands groupes de tabac ont été forcés de révéler, en plus de versements d'une amende record.
C'était quoi ces documents ?
Ces documents internes révélaient que des multinationales cachaient la dangerosité et le potentiel addictif de la nicotine. De nombreux fumeurs et familles de fumeurs tentaient déjà de leur intenter des procès car ils dissimulaient des dangers liés au tabac. Pour te donner une idée de leur mauvaise foi, je vais donner une comparaison. Par exemple, tu sais que ton petit frère a mangé du chocolat en cachette, te demain devant de fait accompli, il y a encore des emballages dans sa chambre, il reste du chocolat fondu sur ses doigts, il s'en est mis sur le visage, il reste aussi des traces au niveau de ses dents, et malgré tout ça, il continue à affirmer qu'il n'a pas pris des tablettes de chocolat qui traînaient dans la cuisine. C'est ce niveau de mauvaise foi. Les industriels du tabac perdent malgré tout du terrain, et visent donc une clientèle plus facile. Nous. Oui, nous, les adolescents. 90% des fumeurs ont commencé avant leurs 18 ans. 90%. Tandis que les taxes sur des paquets de cigarettes grimpent, 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 Big Tobacco cherche à remplacer ses clients qui arrêtent de fumer ou qui meurent. Ce sont des choses qui arrivent. Et devine qui ils veulent pour les remplacer ? Nous. Ils veulent notre argent, mais surtout notre cerveau. Encore en plein développement, il est plus vulnérable aux substances addictives de tout genre. Bien sûr, ils nient tout en bloc publiquement, mais quand ils sont en privé, ils présentent des choses différemment. Leurs documents internes révélés et des publicités anciennes, certaines datant de 1964, montrent bien qu'ils ciblent des ados et même parfois des pré-ados depuis longtemps, avec une entrée dans le tabagisme généralement autour de 13 ans. Évidemment, ils savent bien que la cigarette empeste et cause des cancers à la chaîne, ça fait plus rêver. Du coup, ils essaient de nous hameçonner avec autre chose. Il n'y a pas que de la puff, ils ont de tout, surtout dans le domaine du high-tech qu'on adore. Grosse puff nous met des 9K, 9000 bouffées. Ça vaut 18 paquets de cigarettes et c'est interdit en France. Des 12K, pas besoin d'expliquer. Perte de nicotine, bonbons, sachets, de réimagination et sans limite. De tout avec des goûts variés, souvent renouvelés, des designs cool et colorés, volontairement attractifs, qui peuvent, pour innover, se déguiser en verre de coca, faire boule disco. Et bien sûr, abordable, facile à trouver et à utiliser. Sinon, ils auraient du mal à en vendre pour des milliards. En prime, ils sponsorisent des équipes de foot ou de Formule 1 pour se donner une fausse image saine à leurs produits. Si on n'a jamais fumé et qu'on commence par une puff, on a entre 3 et 4 fois plus de chances de passer ensuite à la cigarette. Cette nicotine joue d'ailleurs un rôle dans le stress, la dépression ou des problèmes relatifs à la mémoire ou la concentration. Pour conclure, de la production à la consommation sous toutes ses formes, le tabac est meurtrier pour les humains comme pour la planète, et ce sont des jeunes qui sont des premières victimes. De tout pour remplir des poches déjà bien trop pleines des industriels tabagistes.
Très présente dans notre quotidien, la musique influence bien plus qu'on ne le pense. Voyons avec Nel les effets qu'elle a sur notre cerveau.
Personnellement, il m'est impossible d'être privé de musique une journée. Si j'ai égaré mon casque ou qu'il est déchargé, je passe une très mauvaise journée. Je pense pas être la seule. Pour nous, lycéens, la musique est essentielle à nos vies, mais pourquoi et jusqu'à quel point ? Cette question, nous la sommes posée avec Isaac et c'est ce qui nous a poussé à vous demander à vous ce qu'elle a apporté à vos vies.
Est-ce que t'écoutes beaucoup de musique au quotidien ?
Oui, régulièrement.
Oui, moi aussi régulièrement.
Moi aussi quotidiennement.
Non, pas plus que ça.
Oui, j'écoute beaucoup de musique.
Non, personnellement, j'écoute pas de musique.
Moi, j'en écoute beaucoup, surtout quand je travaille et tout.
Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien ?
Moi, je pense que c'est un moment d'évasion et c'est un moment qui permet de penser à autre chose et de se focaliser que sur la musique.
Oui, c'est un moment qui permet de se détendre ou d'exprimer ses émotions, de penser à autre chose.
Ça me détend.
Bah, ça m'apporte du plaisir. Quand je suis triste, bah, je mets de la musique triste. Et quand je suis content, je mets de la musique joyeuse.
Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu travailles ?
Non, pas du tout, parce que j'arrive pas du tout à me concentrer dès qu'il y a du bruit.
Oui, moi non plus, je trouve ça déconcentre un petit peu.
Et moi, ça dépend s'il faut vraiment que je sois focalisée ou pas.
Non, parce que j'arrive pas à me concentrer. J'aime bien avoir vraiment du calme autour de moi.
Non, je préfère être dans le calme. Après, j'aime bien avoir un petit bruit de fond, mais généralement, c'est pas de la musique, c'est juste la télé ou des choses comme ça.
Quand je travaille tranquillement, oui, mais après, quand je dois faire des trucs plus sérieux, je mets pas parce qu'après, ça me déconcentre un peu.
Est-ce que t'écoutes de la musique dans les périodes de stress ?
Oui, parce que ça me permet de penser à autre chose et de s'évader un peu.
C'est un moyen de décompresser.
Des fois, oui. C'est un bon moyen de se réfugier, de changer les idées surtout.
Ouais, ça permet de se détendre plus.
Ouais, généralement, quand je suis stressé, soit je fais rien du tout, j'écoute rien, et voilà. Ou soit je vais faire du sport, je vais courir ou des choses comme ça.
Bon. On comprend avec vos réponses qu'elle a des bienfaits sur notre manière de gérer des situations stressantes, comme les révisions ou les examens qui approchent. Mais qu'en dit la science ? Eh bien, sans surprise, la musique est la pratique culturelle préférée des Français, selon le Centre National de la Musique. Pour plus de 3/4 de la population, elle occupe une place essentielle au quotidien, et ce chiffre passe même à 9 personnes sur 10 chez les moins de 25 ans.
J'imagine que ce n'est pas nouveau, cet engouement.
Non, la musique est un art très ancien, déjà présent durant la préhistoire et plus précisément pendant l'ère paléolithique. Elle servait principalement à communiquer et à transmettre des émotions aux autres grâce à des petits instruments à vent qui ressemblaient à des flûtes. Grâce aux découvertes archéologiques, on sait qu'elle s'est développée de manière plus intense durant le néolithique avec des sortes de harpes ou des percussions plus complexes. Dès l'Antiquité, les philosophes reconnaissent les vertus de la musique. Pour Platon, ces stimuli agréables permettent de guérir. Pour Aristote, la musique est un outil forgeant le caractère. Durant l'histoire, toutes les cultures ont utilisé la musique pour leurs cérémonies spirituelles ou comme soins thérapeutiques. Au Moyen-Âge et en Europe, l'Église catholique a contribué à en faire une pratique de masse, c'est-à-dire destinée à l'ensemble des individus, peu importe leur appartenance sociale. Lors des messes, les chants religieux permettent aux analphabètes très nombreux d'apprendre et de retenir des prières et des apprentissages religieux sans avoir à lire. Au siècle des Lumières, la science démontre que la musique agit sur le système nerveux. C'est le début de la musicothérapie, soit l'utilisation de la musique comme outil thérapeutique pour traiter certains troubles mentaux, physiques et émotionnels.
Justement, que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque l'on écoute de la musique, Nel ?
Il libère des substances neurochimiques, des hormones associées au bonheur, comme la sérotonine qui soulage les douleurs et agit comme antidépresseur, ou encore l'endorphine qui permet de lutter contre le stress. Mais la plus spectaculaire, celle qui agit puissamment sur notre cerveau, c'est la dopamine. C'est elle qui active le circuit de la récompense, essentiel à la survie d'une espèce, car il se déclenche lors d'une action vitale, comme manger. Ce circuit est parfois trompé par des substances addictives, comme les drogues, la nicotine, ou les récompenses des réseaux sociaux. La musique agit aussi sur le cortisol, l'hormone du stress, qu'elle réduit. Écouter ou jouer de la musique participe donc activement à la sensation de bien-être. Plus fou encore, elle augmente les connexions entre les deux hémisphères du cerveau, ce qui facilite les apprentissages et la mémorisation. Les morceaux que l'on écoute entre nos 15 et 20 ans restent dans notre mémoire toute notre vie. Pour moi, la discographie de Radiohead est sauvegardée à jamais dans mon cerveau. Elle facilite aussi l'apprentissage du langage et de l'empathie, car la première chose que l'on perçoit lorsqu'on apprend une langue, c'est son rythme et sa musicalité. Les études montrent qu'elle peut être une piste de traitement pour les troubles du langage comme la dyslexie. Enfin, la musique peut avoir des effets sur l'amygdale, une région du cerveau impliquée dans les émotions. Elle génère et régule les réactions émotionnelles face à la musique, selon ce que l'on écoute. Les recherches démontrent que la musique stimule énormément la mémoire et permet même de réveiller des souvenirs autobiographiques reliés à certains morceaux, même chez les patients atteints d'Alzheimer, qui peuvent retrouver un souvenir lointain quelques instants. La musique permet aux jeunes atteints de dépression avec des problèmes comportementaux et émotionnels d'atténuer leurs troubles en plus d'une prise en charge traditionnelle. Elle leur permet de renforcer leur estime d'eux-mêmes en améliorant leur capacité à s'exprimer et à interagir avec les autres. Vous l'aurez compris, il est urgent d'écouter de la musique, que ce soit Frank Sinatra, Sonic Youth, Dali ou encore Nirvana. Elle nous permet de communiquer, elle se lie à nos souvenirs chargés d'émotions et nous les rappelle à chaque écoute. Elle procure du plaisir, elle permet de tisser des liens avec les autres, elle nous réconforte. Qui n'a jamais écouté des heures de musique déprimante après une déception amoureuse? Elle influence profondément nos émotions et nos expériences. Elle est bonne pour notre cerveau et notre corps. En bref, écoutez de la musique, vous n'en tirez que des bénéfices.
See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you.
Présente au quotidien dans l'établissement, l'infirmière joue un rôle clé dans le bien-être des élèves. Isaac lui a posé quelques questions.
Bonjour, je suis avec Madame Charnier, infirmière au lycée Jacques Amyot depuis plus de 2 ans. Votre métier ne se limite pas à soigner les différentes blessures physiques. Est-ce que vous voyez beaucoup de jeunes qui ont un mal-être ?
Oui, beaucoup. C'est même, je pense, la principale raison des consultations à l'infirmerie. Pour ma part, ça fait partie en fait de la prise en charge de l'adolescent, dans sa construction aussi, le mal-être. Après, à nous de voir en tant qu'infirmière si le mal-être est installé, à quel stade et comment on peut aider ce jeune.
Quelles sont les raisons les plus fréquentes des mal-être des jeunes ?
La plupart du temps, ça reste quand même des conflits, soit avec les autres, l'isolement. Ça engendre du mal-être. Ça peut être aussi par rapport à une situation familiale. Mais ça reste aussi où parfois le mal-être, il n'est pas forcément étiqueté. Où le jeune va mal et c'est pas vous dire pourquoi. Où là, pour le coup, c'est important de bien l'orienter après derrière. Nous, on propose déjà un suivi au niveau de l'infirmerie. Mais parfois, ça ne suffit pas. Donc là, il faut orienter les jeunes vers des structures comme la maison des ados ou vers les psychologues extérieurs. Et selon la gravité de ce que relate le jeune, on prévient le parent.
Est-ce que vous convoquez souvent des parents pour avoir un échange parents, jeunes et infirmières pour parler du mal-être de ces jeunes ?
Les fois où j'ai organisé ce genre de rendez-vous, c'était plutôt dans l'urgence. Et c'était vraiment pour orienter le jeune vers une hospitalisation d'urgence, donc où là on a échangé avec le jeune et les parents. Après, je fais plus des suivis par téléphone pour les parents, mais enfin voilà, s'il y a besoin de voir le parent et le jeune, mais c'est toujours en accord avec le jeune.
D'accord.
Il faut que le jeune adhère, sinon ça mène pas à grand chose.
Dans la vie d'un adolescent ou d'une adolescente, est-ce que vous estimez que c'est normal de passer par des périodes qui sont très compliquées ?
C'est normal parce que c'est la construction, c'est le passage de l'enfant à l'adulte. Avec en plus les hormones de l'adolescence qui se mettent au milieu de tout ça. Et du coup, c'est vrai que c'est normal de passer par des moments de moins bien. Je dirais pas de mal-être, par contre. Je dirais de moins bien. Voilà, ou des moments où on peut se poser plein de questions et des questions un peu négatives. Mais quand c'est un vrai mal-être, là, il faut alerter et il faut pas rester tout seul.
Quel conseil est-ce que vous donneriez aux jeunes qui se sentent mal ?
D'en parler. D'en parler à un proche, à un jeune de son âge s'il souhaite pas en parler, à son parent, mais on sait qu'à cet âge-là, c'est plus difficile d'en parler à son parent, en parler aux ressources du lycée, que ça soit un AED, un surveillant, que ça soit un CPE, une infirmière, la psychologue, enfin, j'ai envie de dire, il n'y a pas un professeur, il n'y a pas de référence, il faut que le jeune aille voir la personne à qui il a confiance et avec qui il a envie de parler. Et ensuite, la personne transfère l'information à l'infirmière ou la psychologue de l'éducation nationale.
C'est votre 3e rentrée au lycée Jacques Amyot.
Oui.
Est-ce qu'au fil des ans, vous voyez une évolution dans le mal-être des jeunes ? Est-ce qu'il y a plus de mal-être ? Est-ce qu'il y en a moins ? Est-ce qu'il est différent ?
Alors, moi, j'ai pas assez de recul. Tout ce que je peux voir, c'est qu'en ayant passé 20 ans en milieu hospitalier, je ne pensais absolument pas que les jeunes allaient si mal. Il n'y a pas une année où on n'a pas de cas de jeunes qui vont mal au point d'avoir besoin d'un traitement ou d'une prise en charge extérieure. Ça n'arrive pas.
Quels dispositifs sont mis en place au lycée pour aider les jeunes qui se sentent mal ?
Ça va être plus la prise en charge au niveau de l'infirmerie, avec le suivi, l'orientation vers la PsyEN. Si c'est, par exemple, un problème par rapport à l'isolement qui peut s'apparenter à du harcèlement, on a cette année les sentinelles du Minotaure qui font partie des ambassadeurs contre le harcèlement, ou c'est des référents contre le harcèlement, mais ils peuvent très bien recueillir la parole d'un jeune qui va mal.
Quel conseil est-ce que vous donnez aux jeunes pour bien se sentir, pour aller mieux ?
si le mal-être il est pas, admettons, avéré en fait, ou vraiment faut qu'il y ait une prise en charge extérieure, un avis médical ou des choses comme ça, on peut travailler sur les conseils du bien-être parce que le jeune va être encore réceptif. Si le mal-être est trop profond, il pourra pas entendre ce qu'on lui dit. Donc si c'est dans ce cas-là, il faut toujours dire au jeune de voir les choses positives dans une journée, de prendre confiance en lui avec des petites choses, se dire que ce qu'il fait c'est bien, de regagner la confiance et de faire des choses qu'il aime. Voilà, parce que parfois, quand il est au lycée, le jeune il ressent pas ces moments-là parce que tout va mal, donc forcément même les cours c'est compliqué, donc on lui dit de trouver des petits moments où c'est positif. Et ça peut aider, mais c'est pas forcément la seule solution.
Merci beaucoup, Madame Charnier, de nous avoir accordé cette interview très intéressante. Et très bonne journée à vous.
Merci à vous. Bonne journée.
Merci à toutes et à tous. Merci à vous, chers auditeurs. Et à bientôt sur Jack Radio.
Jack Radio, l'info en quelques mots.